Au sommaire de ce journal, un sommet prolongé, mais un sommet toujours sans compromis à Bruxelles. Les pays européens tentent toujours de s'entendre sur un plan de relance de l'économie. Et ce n'est pas gagné, nous dira Louise Baudet. Un bénévole du diocèse a été placé en garde à vue dans l'enquête ouverte après l'incendie de la cathédrale de Nantes hier. Enquête pour incendie volontaire, on fait le point dans ce journal. Le port du masque sera obligatoire dès demain dans tous les lieux publics clos. Il était temps, nous dira un infectiologue. Enfin, l'Afrique du Sud célèbre aujourd'hui les 25 ans de la commission Vérité et Réconciliation après l'apartheid. Le reportage de notre correspondante à Johannesburg. Toujours pas d'accord en vue à Bruxelles, où le sommet consacré au plan de relance des économies européennes joue les prolongations. Initialement prévu pour s'achever hier soir, il continue aujourd'hui. Les 27 devaient se retrouver à midi autour d'une même table en séance plénière. Mais les tractations en coulisses durent plus longtemps que prévu. À leur arrivée, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont dramatisé l'enjeu. Un échec est possible, a dit la chancelière allemande, mais pas question de sacrifier l'ambition européenne, a prévenu le président français. Les deux dirigeants affichent une unité sans faille, Louise Baudet.
Dès les premières images, ils sont apparus côte à côte. Mise en scène soignée d'une parfaite entente dans la tourmente, participant en duo aux principaux conciliabules, claquant la porte de concert la nuit dernière face à l'intraitable néerlandais Mark Rutte. Angela Merkel et Emmanuel Macron font bloc pour sauver le plan de relance qu'ils ont préfiguré le 18 mai dernier. D'accord pour faire des concessions, mais pas au point de renier leur ambition.
La volonté de compromis ne saurait nous faire renoncer à l'ambition légitime que nous devons avoir. Il nous faut trouver les bons compromis dans les prochaines heures. Je pense que c'est encore possible. Mais ces compromis, je le dis très clairement, ne se feront pas au prix de l'ambition européenne. Pas pour le principe, mais parce que nous sommes face à une crise qui est inédite sur le plan sanitaire, économique et social, parce que nos pays en ont besoin et l'unité de l'Europe en a besoin.
Un compromis est encore possible, affirme à son arrivée le président français. Voilà pour le verre à moitié plein. Question de caractère, sans doute, Angela Merkel choisit le verre à moitié vide.
Y aura-t-il une solution aujourd'hui? Je ne peux le dire. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais aussi beaucoup de divergences. Je reste ouverte à la discussion, mais il est aussi possible qu'il n'y ait pas d'accord ce soir.
In fine, la même incertitude et la même dramatisation. Angela Merkel et Emmanuel Macron n'entendent pas faire de nouvelles concessions, mais ils savent qu'un échec serait hautement préjudiciable à l'image de l'Union européenne auprès de leurs opinions et qu'ils en seraient tenus pour co-responsables. Ils font donc monter la pression. Leur ultimatum adressé la nuit dernière au camp des frugaux n'ayant pas fonctionné, reste une journée et peut-être une nuit pour trouver les voie du compromis.
Louise Baudet. L'enquête avance ce matin après l'incendie de la cathédrale de Nantes hier. Un homme est en garde à vue, selon le procureur de Nantes. Et ce, Julie Munch, depuis les premières heures de l'enquête.
Cet homme est entendu depuis hier après-midi vers 16h, quelques heures seulement après l'incendie. Ce bénévole est âgé de 39 ans. Il était chargé de fermer la cathédrale vendredi soir. Les enquêteurs veulent préciser certains éléments de son emploi du temps, explique le procureur Pierre Sénès. Il rappelle ensuite qu'aucune trace d'effraction n'a pour le moment été constatée sur les lieux. Ce dimanche midi, le bénévole est toujours en garde à vue. Il pourrait d'ailleurs y rester toute la journée. Mais le magistrat court aux rumeurs. Pour lui, il est hâtif et prématuré de tirer des conclusions. Cette garde à vue, c'est une procédure normale, conclut-il. La piste accidentelle est donc toujours envisagée à ce stade. Les enquêteurs sont donc toujours à la recherche sur place de preuves dans les débris et les poutres calcinées de la cathédrale. Des experts incendies du laboratoire de police scientifique et technique sont à pied d'œuvre, mais les opérations sont difficiles. La plateforme qui soutenait l'orgue est instable et menace de s'effondrer. Ce lieu crucial pour l'enquête doit donc d'abord être sécurisé par les sapeurs-pompiers. Le procureur de Nantes espère qu'ils pourront y accéder dans la journée.
Et alors que l'origine soit criminelle ou accidentelle, il n'en reste pas moins que la question de la sécurité se pose pour les édifices. Trop peu de cathédrales auraient des normes de sécurité suffisantes. Écoutez ce qu'en dit Mathieu Lourse, historien spécialiste de l'architecture des cathédrales.
Les services des DRAC, les services des monuments historiques sont au chevet des cathédrales et des études sont régulièrement opérées sur tous les points sensibles, notamment les circuits électriques, notamment tout ce qui peut faire voisiner un point chaud lors de travaux avec un matériau combustible. Le problème étant que, premièrement, le risque zéro n'existe pas. Deuxièmement, que les monuments historiques nécessitent des actions spécifiques. Et troisièmement, que ces édifices peuvent être aussi la cible d'actes malveillants.
L'historien Mathieu Lourse, il répondait à Nabila Hamel. Le port du masque sera obligatoire dans l'ensemble des magasins des grandes enseignes alimentaires à partir de demain. C'est ce qu'avaient exigé plusieurs médecins et professionnels de santé en signant le 11 juillet à la tribune « Masqué mais en liberté ». L'infectiologue Éric Combe en faisait partie, on l'écoute.
C'est très important que ça soit fait. Je rappelle quand même que quand on a déconfiné, c'était le cas partout et que en fait, pour des raisons que j'ai pas bien compris, on a baissé la garde progressivement, notamment après les élections municipales, le deuxième tour. C'est juste un retour en arrière. Après, il faut voir comment cette obligation va être respectée, parce qu'il y a une minorité de la population qui apparemment ne souhaite pas respecter ça. C'est une preuve suprême d'égoïsme, si je peux dire. La prévention est absolument fondamentale, parce que nous n'avons pas de traitement et nous n'avons pas de vaccin. Donc si on ne prévient pas la maladie, les mêmes causes vont produire les mêmes effets et on va se retrouver avec une vague épidémique dont l'ampleur dépassera de nouveau, avec les conséquences que l'on connaît et que personne n'a envie de revivre. Pour le port du masque à l'extérieur, je pense qu'il faut faire preuve de souplesse, parce que exiger dehors et dedans, et ben on risque d'avoir ni l'un ni l'autre. Donc je pense qu'il vaut mieux insister sur le dedans, là où on sait que se fait la transmission de la maladie, plutôt que sur le dehors, même si la plus grande vigilance est requise dehors, quoi, notamment au niveau de la distanciation physique.
Éric Combe, joint par Camille Kaufmann. Et dans le monde, le nombre de morts dus à la pandémie dépasse désormais les 600 000 personnes, dont plus de 200 000 en Europe et 160 000 en Amérique latine. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec à eux seuls plus de 140 000 morts. Une marche blanche a lieu cet après-midi en hommage à Mamadou Barry, cet universitaire de 31 ans, est mort il y a tout juste un an à Rouen. Il avait été frappé à mort par un homme connu pour des troubles psychiatriques. Le caractère raciste de l'agression a été retenu. Le suspect avait été mis en examen début janvier. Le 19 juillet, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'Adama Traoré. C'était il y a 4 ans, cette fois à Beaumont-sur-Oise. Adama Traoré est mort lors d'une interpellation par les gendarmes. L'enquête n'est toujours pas bouclée. Hier, plusieurs milliers de personnes ont répondu présentes lors de la marche organisée par le collectif Adama et l'organisation écologiste Alternatiba. Sa nomination comme garde des Sceaux avait surpris, voire inquiété. Éric Dupond-Moretti dessine sa feuille de route dans le journal du dimanche aujourd'hui. L'avocat se dit ni laxiste ni ultra répressif. Il promet de la fermeté face au terrorisme, de mener la réforme du parquet et de la justice des mineurs. Lui à qui ont été reprochés ses critiques du mouvement MeToo promet également de faire de la lutte contre les violences conjugales une priorité. Éric Dupond-Moretti souhaite, je cite, que les hommes suspectés de violences conjugales, s'ils ne sont pas déférés, soient convoqués par le procureur et reçoivent un avertissement judiciaire solennel. L'Afrique du Sud célèbre aujourd'hui les 25 ans de la loi donnant naissance à la Commission Vérité et Réconciliation, loi signée à l'époque par Nelson Mandela. L'institution a tenté de faire la lumière sur les crimes commis durant l'apartheid. Elle a donné la parole aux victimes et aux bourreaux dans une tentative de grand dialogue national. Le modèle aura été célébré et copié dans le monde entier. Mais en Afrique du Sud, 25 ans plus tard, certaines familles de victimes n'ont toujours pas trouvé la paix. C'est un reportage de Claire Bargelès.
Kone Gougouché se bat encore aujourd'hui pour que la mort de son père, Mapetla Morapi, soit reconnue comme un crime de la police. 25 ans après la création de la commission, elle est toujours en quête de vérité.
Certes, la commission a permis de libérer la parole, mais dans mon cas, les mensonges de l'État n'ont pas été révélés. Et c'est donc un échec, car nous n'avons pas pu tourner la page et avoir un sentiment de justice.
Mais pour l'ancien commissaire Doumissa Tsebeza, impossible à l'époque de boucler tous les dossiers, et les recommandations de poursuite n'ont ensuite jamais été appliquées par les gouvernements successifs.
Les attentes étaient trop grandes. C'était impossible d'enquêter sur 34 ans en 24 mois. La justice aurait ensuite dû appliquer nos recommandations.
Depuis 2016, des dossiers ont été rouverts devant les tribunaux, comme le cas du militant Ahmed Timol. Pour son neveu Imtiaz Kadji, c'est un premier pas pour terminer le travail de la commission.
La commission était un instrument pour démarrer le processus, mais c'est resté inachevé. C'est pour cela que beaucoup de familles demandent aujourd'hui des enquêtes pour enfin savoir qui est responsable de la mort de leurs proches.
D'autres procédures judiciaires ont été lancées, mais elles sont pour l'instant mises en pause pour cause de pandémie.
Claire Bargelès à Johannesburg. Il fait beau et chaud presque partout en France métropolitaine. Des nuages toujours près de la Manche avec parfois un peu de pluie sur les côtes. Ailleurs, le soleil domine. Il fait de 20 à 25 degrés près de la Manche, de 26 à 32 ailleurs, jusqu'à 34 degrés dans le sud. Ce journal a été préparé avec Nicolas Pommet et Valentin Bobinet à la technique.